Pour ce dimanche, la pensée était très claire dans mon cœur. Pendant toute la semaine, le Seigneur me disait, parle-leur de cette arme puissante qu'ils peuvent utiliser. Il ne s'agit bien sûr pas d'une arme physique, il ne s'agit bien sûr pas d'un combat physique. Et malheur à la personne qui croirait qu'il faut se combattre quelqu'un, parce que ce n'est pas du tout ce que la Bible demande. On va lire un texte dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Vous connaissiez ce texte ? Ce texte nous parle de ce combat qu'il y a. Et quand nous sommes chrétiens, il ne faut pas se voiler la face. Quand nous sommes chrétiens, il faut être sincère. Ce n'est pas la vie en rose. Ce n'est pas un grand tapis rouge qui est dressé devant nous sur lequel on doit marcher. Mais quand nous sommes chrétiens, nous nous rendons compte de la réalité du combat. Oh, vous inquiétez pas. Même quand on n'est pas chrétien, le combat, il est là. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et on n'a pas l'impression qu'il y a des choses mauvaises qui se passent. Pourtant, quand on est né de nouveau, on a ses yeux ouverts sur la réalité du monde spirituel, qu'il y a un ennemi qui cherche à nous abattre, qui cherche à nous confondre, qui cherche à nous détourner du bon chemin, qui cherche à nous piéger, qui cherche, comme c'est dit dans ce texte, à nous emprisonner dans des forteresses. Vous avez remarqué ? Et les armes dont l'apôtre Paul parle, une de ces armes en tout cas est capable de renverser les forteresses. Qu'est-ce que c'est ces forteresses ? Quel château c'est ? Est-ce qu'on peut le visiter ce château ? C'est pas un château physique bien sûr, mais il s'agit de ces forteresses de pensée, et d'ailleurs c'est précisé, nous renversons les raisonnements. Est-ce que les raisonnements ne peuvent pas devenir des forteresses dans lesquelles on se fait piéger, dans lesquelles on est emprisonné ? On a tous entendu un conte où il y avait la princesse qui était emprisonnée dans une forteresse dans la plus haute tour du donjon et il y avait un beau prince charmant qui venait la délivrer. Mais souvent, nous, on se retrouve dans la position de la princesse, enfermée dans des forteresses, mais des forteresses invisibles. Et le danger, il est là, c'est que ce sont des choses invisibles qui se passent. Mais combien de personnes sont enfermées ? Dans ces forteresses, dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs pensées. Vous savez comment le diable s'y prend pour nous tenter, pour nous faire chuter ? C'est toujours, ça commence toujours par le fond de notre cœur, les pensées. Oh, il voit pas tout ce qui se passe dedans, le diable. Des fois, les gens croient que le diable est tout puissant. Il est pas omniscient, le diable. Il y a que Dieu. Par contre, il a la capacité d'inoculer son venin mortel dans notre cœur. Vous avez remarqué, il y a des fois, tout va bien, on se lève le matin, c'est le dimanche, il fait beau, il y a un grand soleil dans le ciel, on a lu la Bible, on a passé du temps dans la prière, c'est merveilleux, on a vécu un bon moment. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a une pensée mauvaise qui vient, toute seule. On ne sait pas d'où elle sort, je vous le dis d'où elle sort, c'est le venin du diable, le serpent qui est rusé et qui voudrait nous piéger. Et vous savez qu'on peut se faire piéger dans les pensées, on peut rester emprisonné toute notre vie. Regardez le peuple d'Israël, je ne l'ai pas marqué dans mes notes, mais l'exemple il est flagrant. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert parce qu'ils étaient piégés dans leurs pensées. Le murmure, les murmures, la critique, les reproches au Seigneur continuels, ce qui a fait qu'ils sont restés prisonniers. Ah, ils étaient en pleine liberté, ils n'étaient plus esclaves, mais ils étaient encore prisonniers d'une forteresse. La forteresse de leurs pensées, la forteresse de ces choses-là. Et ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a une arme puissante qui permet de renverser les forteresses. Cette arme puissante, c'est celle qui est donnée par l'apôtre Paul, qui nous dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dès qu'une pensée se présente dans mon esprit, je regarde si elle correspond à ce que me dit la parole de Dieu. Si c'est le cas, je cultive cette pensée. Si c'est pas le cas, eh bien, je la mène captive à l'obéissance. Vous savez que la vraie liberté dans ce monde, ce n'est pas de faire ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas de faire tout ce qui nous passe par la tête, parce que des fois, il y a des choses bizarres qui nous passent par la tête. La vraie liberté, c'est d'amener nos pensées captives, mais captives à l'obéissance de Christ, pas captives à n'importe quoi. Regardons cet autre texte dans Philippiens 4, verset 8, un texte qui est peut-être mieux connu que celui-là, mais qui reprend exactement la même idée. Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères et sœurs, je rajoute, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de quoi ? Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » L'importance de mettre en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Qui veut ce matin que le Dieu de paix soit avec lui ? Je lève la main en premier. Hein ? Je veux ma portion. Mais vous avez vu les conditions ? Les conditions, c'est que je sois capable de saisir cette arme spirituelle. On connaît tous Éphésiens 6, l'armure du chrétien, on connaît tous ces choses-là. Mais là, ce matin, l'arme dont je vous parle, c'est cette maîtrise, ce contrôle sur nos pensées. Il ne s'agit pas de self-control, il ne s'agit pas d'avoir un mental d'acier, c'est pas ça dont je parle. Mais c'est d'avoir cette capacité que Dieu nous demande d'amener nos pensées captives à l'obéissance. Et ce verset est une grande description de tout ce que nous pouvons faire, de toutes les pensées qui peuvent passer dans notre esprit et que nous devons filtrer pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie. Alors, vous avez vu qu'il y en a beaucoup, je ne vais pas avoir le temps ce matin de pouvoir voir tous, mais je voudrais commencer par le premier. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. On a le choix sur la terre de vivre dans la vérité, d'être des enfants de lumière qui marchent dans la vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et nous avons accepté ce Seigneur-là. On a le choix de vivre cette chose-là ou alors de nous laisser emprisonner par la forteresse du mensonge. Et vous savez, des fois, il n'y a pas besoin qu'il y ait un gros mensonge pour qu'on soit dans de grands problèmes. Des fois, il suffit d'une petite chose. Un petit mensonge, mais qui est à la base de tout notre raisonnement pour qu'on se trompe totalement. Je vous donne un exemple parce que ça paraît très théorique ce que je dis, mais vous allez comprendre. Le geôlier de Philippe, vous savez qu'à un moment donné, dans la ville de Philippe, il y avait Paul et Silas qui étaient emprisonnés. Et au milieu de la nuit, eux qui avaient reçu des coups, eux qui avaient été frappés, persécutés à cause du nom du Seigneur, ils chantaient des cantiques, ils louaient leur Seigneur, ils priaient. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre s'est passé. Tremblement de terre hyper minutieux du Seigneur qui a détruit les murs, mais qui a pas fait de mal du tout aux personnes. Et le gardien, le geôlier, il s'est réveillé. Et la Bible nous dit, pensant que les prisonniers s'étaient échappés, il tira son épée et il voulait se tuer. Vous vous souvenez de ce passage? Vous avez vu la puissance de cette pensée qui était pourtant basée sur quelque chose qui n'était pas vrai. Quelque chose de faux. Un mensonge. Alors, est-ce que c'est lui qui s'est menti à lui-même? Moi, je crois que c'est justement l'ennemi qui lui disait, mais tu vois, tiens, t'as pas fait ton boulot, alors ça sert à quoi que tu vives encore? Alors, on va faire un petit exercice. Regardez son raisonnement à cet homme. Est-ce que les portes de la prison étaient ouvertes? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que les murs étaient détruits? Est-ce que c'était vrai? Est-ce que les prisonniers s'étaient enfuis? Non, mais ils ne le savaient pas. Est-ce que les autorités avaient demandé à cet homme de garder très sérieusement ses prisonniers? Si vous lisez le contexte, vous verrez que c'est le cas. Est-ce que si les prisonniers s'étaient échappés, ils risquaient d'être punis de mort? Eh bien, quand on connaît l'histoire, quand on connaît les époques, à l'époque, ça rigolait pas avec la justice. Et cet homme risquait sa mort. Alors il s'est dit... Il vaut mieux que je me tue plutôt que ça soit mes patrons qui me mettent à mort. Mais tout ça, tout ce raisonnement, beaucoup de choses sont vraies, une petite chose est fausse. Et ça a amené une pensée de destruction dans sa vie. Cet homme a pensé au suicide, tout simplement. Heureusement, dans ce tournoiement de pensée dans son esprit, il a entendu une parole qui a amené la vérité. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Et ça a relâché quelque chose dans son âme. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite, il s'est approché de Dieu au travers du témoignage de Paul et Silas. Mais vous voyez que si on construit notre raisonnement et qu'il y a une seule petite pensée qui n'est pas vraie, ça peut avoir des conséquences destructrices. Et la question que je vous pose, que je nous pose, c'est est-ce que parfois dans nos cœurs, il n'y a pas ce genre de raisonnement? On fait toutes sortes de réflexions, on se sert beaucoup de notre cerveau, mais on part des fois sur des hypothèses qui sont... On ne sait pas si elles sont vraies ou pas. Et combien l'ennemi se plaît à se servir de cela pour nous emprisonner, pour nous mettre dans des situations où alors que Dieu nous demande qu'à déverser en nous son bien-être, l'ennemi arrive à nous piéger parce que nous ne pensons pas à toutes ces choses qui sont vraies et nous choisissons de penser à des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Il vaut mieux vérifier, il vaut mieux se rendre compte que le Seigneur est celui qui veut nous aider. Que le Seigneur est celui qui veut nous aider à rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand une pensée vient dans mon esprit, la première question que je dois me poser, est-ce que c'est vrai? Quand je parle avec quelqu'un et qu'il me dit quelque chose sur une autre personne, ça arrive ça des fois. Est-ce que c'est vrai? Moi je pose la question, je dis, mais est-ce que tu as demandé à la personne? Avant d'aller plus loin sur ce que tu me dis, est-ce que tu allais vérifier toi-même? Moi maintenant, je prends plus de gants par rapport à ces choses, c'est tellement important. Des fois, on parle des uns et des autres, et on n'a pas vérifié si c'était vrai. Et on se met dans une forteresse. Parce qu'il y a des conséquences invisibles qui sont là, il y a des pièges qui sont là, qui sont dressés. Le mensonge, c'est quelque chose qui nous piège. Il y avait cette histoire qui nous racontait un directeur de magasin qui avait une boutique et qu'il entend à un moment donné son vendeur, il se promène dans son magasin, il regarde les employés, il entend un des vendeurs qui dit à une dame « Non madame, nous n'en avons pas eu depuis un certain temps et il ne semble pas que ça change de sitôt. » Alors le directeur, il est horrifié, mais il court vers la dame, il dit « Non, 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 vous inquiétez pas madame, on va en avoir très très bientôt, vous inquiétez pas, on a passé la commande la semaine dernière, ça va arriver très bientôt, ne vous inquiétez pas. » Et puis après, il prend son vendeur à part, et puis il lui dit « Jamais, jamais, jamais je veux que t'entendre dire qu'on est en rupture de quoi que ce soit. Jamais je veux que tu fasses ça. Tu dis toujours à la personne qu'on a commandé et que ça va arriver. » Après, il dit « Bon, tu le savais pas, bon, maintenant c'est comme ça, c'est très bien, voilà, on n'en fait plus une histoire. » Au fait, qu'est-ce qu'elle voulait la dame? Eh ben en fait, elle me demandait s'il y allait avoir de la pluie. Vous avez compris? Et le mensonge est là pour nous piéger. On essaye de trouver des parades, on essaye de montrer que tout va bien, qu'on maîtrise la situation, et le mensonge nous piège. Le mensonge nous piège. Ce qui est faux nous piège et nous avons besoin de venir dans la présence du Seigneur et de dire « Seigneur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées, que ta vérité puisse être le délice de mon cœur. » Combien d'hommes et de femmes sont dans des situations difficiles? Hier, à la réunion de jeunesse, il y a un jeune qui approchait de moi pour prier au moment de l'appel. Il y en avait toutes sortes, mais ce jeune en particulier a attiré mon attention. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la vingtaine et il m'a dit « j'ai une dépression ». Et je me suis dit dans mon cœur, comment un tout jeune comme ça peut vivre des moments de dépression? Dans quel monde est-ce qu'on se trouve? Qu'un monde qui pousse même des jeunes et des... Je suis sûr que même il y avait des adolescents, et dans notre monde d'aujourd'hui, des adolescents, même des enfants sont dans la dépression. Parce que l'ennemi se plaît à mettre des raisonnements qui sont basés sur des choses fausses, et nous avons en tant que chrétiens le devoir, nous avons le commandement d'utiliser cette arme spirituelle, d'amener notre pensée captive à l'obéissance de Christ, pour que les forteresses de raisonnements qui sont fausses soient abaissées. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance, pour que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ soit renversée. Et j'ai prié pour cet homme, ce jeune homme, et je prie encore que le Seigneur puisse le bénir, et que dans les jours à venir, il puisse expérimenter cette réalité, que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées, que tout ce qui est honorable. D'un côté, on a les pensées honorables, de l'autre côté, on a les pensées de mépris. Et quand on commence à mépriser dans notre cœur, ben c'est une forteresse qui se dresse devant nous. Souvenez-vous de ce qu'il est dit. Il était question des raisonnements qui peuvent être des forteresses, mais il était aussi question des hauteurs. Les hauteurs, ce sont ces sentiments où on s'élève. Vous savez, où on prend de l'altitude, mais où on ne devrait pas en prendre l'altitude. Les pensées hautaines. Quand on pense qu'on est au-dessus du lot, quand on pense qu'on vaut mieux que les autres, quand on est dans ces pensées de hauteur, eh bien, on regarde les autres avec mépris. Oh, des fois, c'est très délicat, c'est très fin. On a l'impression que c'est spirituel. Ça donne une apparence spirituelle. On présente bien devant les gens. Mais attention à ne pas tomber dans la forteresse du mépris. Et d'avoir ce cœur simple, ce cœur qui aime le Seigneur. Vous savez comment Goliath y regardait David ? Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Quand on commence à parler en disant « je ne vois en lui que ça », comment est-ce que vous regardez votre frère ou votre sœur qui est assis à côté de vous ? Est-ce que vous dites « je vois en lui que » ou vous dites « merci Éternel parce que tu m'as donné telle ou telle personne et je veux te demander de la bénir et je veux te demander que je sois une bénédiction pour elle » plutôt qu'avoir une pensée de mépris. Goliath, du haut, bien sûr, il était grand, alors forcément il regardait les gens de haut. Mais c'était non seulement physique, mais c'était aussi dans son cœur. Il avait du mépris. Et Goliath, il était enfermé dans ce mépris. Ses pensées étaient méprisantes, et quand il a des pensées méprisantes, il a allé jusqu'à provoquer Dieu. Et quand on provoque Dieu, mes amis, laissez-moi vous dire que Dieu, il s'occupe de nous. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui laisse passer les choses comme cela. Et vous verrez que tout à l'heure, je vous donnerai ce verset qui vous montre que Dieu s'engage quand on l'honore. Allez, je le dis maintenant. J'honorerai celui qui m'honore, a dit le Seigneur. Mais je mépriserai celui qui me méprise. Il y a les deux réalités qui sont vraies. Celui qui honore Dieu, celui qui respecte Dieu, celui qui vénère Dieu, celui qui a cette piété réelle dans sa vie, Dieu va l'honorer, il s'engage, il a signé, il a mis son tampon spirituel. Mais il a mis son même tampon pour la personne qui le méprise. Comment mépriser ce qu'on ne connaît pas ? Il y a des gens dans le monde qui disent des choses, des fois dures même sur Dieu, mais en fait c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Mais là, Dieu parle surtout des personnes qui connaissent. Dans le contexte de cette histoire où Dieu a dit cette parole, c'était un sacrificateur, c'était pas quelqu'un qui connaissait pas la parole, au contraire, un sacrificateur qui laissait ses fils, qui étaient aussi sacrificateurs, qui les laissait faire n'importe quoi, et qui ne les réprimandait pas. Et c'est à lui que Dieu a dit cette parole. Et cet homme a vécu une mort particulière, il a vu ses enfants mourir, et il a connu lui-même la mort, il a vu, quand il est mort, c'est au moment où l'Arche de l'Alliance a été capturée par les Philistins. Vous imaginez la dernière pensée qu'il a eue, c'était ça. Parce qu'il a méprisé Dieu. Gardons-nous de mépriser Dieu. Je ne voudrais pas continuer dans ce sens, mais je voudrais plutôt aller dans le côté positif. Qu'est-ce que c'est d'avoir des pensées honorables ? Qu'est-ce qui est honorable ? Qu'est-ce que la Bible nous dit qui est honorable ? Qu'est-ce que la Bible nous dit qui est digne d'honneur ? Prenez une concordance. Je vous donne des devoirs à la maison. Prenez une concordance pour lundi prochain, matin. Je relève les devoirs. Vous allez sur Internet ou vous prenez un livre qui est une concordance et cherchez le mot honorable ou honneur. Et vous voyez tous les textes dans la parole qui vous parlent de ces choses. Je vous en donne quelques échantillons. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Honorez ses parents. Oh, vous allez me dire, moi, mes parents ils sont au ciel, je peux plus les honorer. D'accord, mais pour toi qui es jeune, la Bible demande d'honorer ses parents. Et si il y a toujours un côté ou un autre de la balance. Soit j'honore mes parents, soit j'ai du mépris. Le mépris est plus ou moins grand. Des fois, il paraît tellement anodin, mais c'est l'un ou l'autre. Soit j'ai choisi d'honorer mes parents, soit j'ai choisi de les mépriser. Et le Seigneur nous demande, les pensées honorables que nous devons avoir, c'est cet honneur envers nos parents. Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Honorez nos personnes âgées. Vous qui êtes plus jeunes, tout le monde se sent jeune, hein, mais vous qui êtes plus jeunes, vous allez forcément trouver à un moment donné une personne un peu plus âgée. Est-ce que vous les honorez ? Est-ce que vous les respectez ? Est-ce que vous pensez à elles dans vos prières ? Est-ce que vous les visitez ? Est-ce que vous les appelez pour prendre des nouvelles, pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose ? Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Honorez le Seigneur avec nos biens. C'est une réalité aussi. Et le Seigneur nous demande de le faire. Mais il ne nous demande pas de le faire comme ça. Et il ne nous demande pas de nous appauvrir, de vider notre compte en banque. Les prémices, c'est quelques portions. Et à l'époque, ça représentait le dixième. Mais le Seigneur met ces choses sur notre cœur. C'est une affaire entre nous et Dieu. Je ne veux surtout pas en entendre parler. Mais en tout cas, le Seigneur s'engage encore une fois. Alors tes greniers déborderont, seront remplis d'abondance. Il y en a qui sont justement dans les travails de la terre au milieu de nous. Et combien c'est une grâce de pouvoir voir les greniers qui sont remplis d'abondance, les cuves qui regorgent de moût. Et le Seigneur veut faire toutes ces choses-là, mais il nous demande de l'honorer. Oh, ça, c'est pas dire qu'il faut venir déposer un gros chèque, hein, c'est pas ça, parce que Jésus l'a dit lui-même. À la pauvre petite veuve qui était en train de mettre ses quelques piécettes, elle a donné plus que tous les autres. C'est surtout que nous mettions ce que Dieu nous demande de mettre. C'est surtout ça. Parce que je veux, Seigneur, que mes greniers soient remplis d'abondance. Parce que je crois que le Seigneur est celui qui honore sa parole. Honore l'Éternel avec tes biens. Opprimer le pauvre, c'est l'outrager, celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Est-ce que vous honorez ceux qui manquent de cet aspect financier, justement, ceux qui ont des besoins particuliers? Est-ce que nous honorons, bien sûr, je m'inclus avec vous, que le mariage soit honoré de tous? Est-ce que nous respectons le mariage? Vous savez, dans l'époque dans laquelle nous vivons, tout est fait contre le respect, l'honneur que l'on doit rendre au mariage. Est-ce que nous respectons le mariage? Nous déjà qui sommes mariés, mais les personnes qui ne sont pas mariées, ont besoin de respecter et d'honorer le mariage, parce que c'est la parole qui le dit. Et je pourrais continuer, honorer les veuves, honorer les épouses, les maris doivent honorer leurs épouses. Et là, il y a un verset même qui résume tout, honorer tout le monde. Si vous savez pas qui honorer, la Bible dit honorer tout le monde. La personne que tu croises, tu dois l'honorer. Ça veut pas dire se prosterner devant, vous êtes d'accord? Ça veut pas dire faire toutes sortes de choses. C'est pas les honneurs de ce monde dont il est question. Comment ça se traduit, le fait d'avoir des pensées honorables? Par honneur, usé de prévenance réciproque. Vous avez jamais été interpellé par ce verset? Usez de prévenance réciproque. La prévenance, c'est-à-dire que je vais au-devant du besoin de la personne envers qui j'ai juste de prévenance. Je vais au-devant de son besoin. J'anticipe son besoin et j'y réponds. Des fois, on dit, ah, mais il y a personne, telle personne est manquée de nourriture, mais elle me l'a jamais dit. Et puis, moi, je pose la même question, mais est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as pris du temps avec elle pour savoir la situation? C'est tellement facile de dire « Ah, mais je ne savais pas, donc c'est pas mon affaire. » La Bible dit, elle va plus loin que ça, elle dit « User de prévenance. » C'est-à-dire que je dois prendre des nouvelles, je dois connaître, je dois avoir cette relation. En fait, la pensée du Seigneur dans ce passage, c'est vraiment que nous puissions être actifs. Avoir des pensées honorables, c'est super, mais que ces pensées honorables se traduisent dans l'action. Comme je disais tout à l'heure, en France, on est les spécialistes pour parler de tout et de rien. Et dans l'action, on n'est pas les spécialistes. Et est-ce qu'on va prendre ça en disant « ben on est français, c'est comme ça, ça changera jamais » ou est-ce qu'on va dire « Seigneur, ta parole, elle a été aussi écrite pour les Français et on croit que tu veux nous changer, nous transformer ?» Amen. Il y en a qui ont la foi, que Dieu peut même toucher le cœur des Français. Amen. Moi, je le crois, oui. Il suffit de dire, Seigneur, que tout ce qui est honorable, ce que ta parole me dit qui est honorable, je veux l'accomplir. Les pharisiens, ils étaient, eux, dans la forteresse du mépris. Je reprends ce texte pour vous montrer cet exemple dans Matthieu chapitre 15, verset 4. Justement, Jésus reprend ce verset de ces dix commandements, hein, car Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Matthieu 15, 4. Mais vous dites, d'un côté il y a la loi de Dieu bonne pour les hommes, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous avez vu ce que Jésus est en train de pointer du doigt chez ces hommes qui étaient tellement religieux, qui allaient tous les jours à l'église de l'époque, la synagogue. Il est en train de pointer du doigt leur mépris. Et ils étaient tellement derrière des forteresses de raisonnement et de pensée qu'ils croyaient maintenant qu'ils pouvaient se permettre de ne pas accomplir la loi si ça paraissait très spirituel. L'offrande que j'avais réservée pour ma famille, je vais la donner à Dieu. Ah, combien c'est spirituel. Oh là là, que les gens vont m'applaudir et voir quel sacrifice je fais. C'est dans cet état d'esprit qu'ils étaient. Mais c'était la forteresse du mépris. Parce qu'ils méprisaient leur père, leur mère, les personnes proches d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper que de notre famille et pas s'occuper du Seigneur. On vient de dire le contraire juste avant. Mais ces hommes étaient tombés dans le mépris. Et des fois, on s'occupe tellement des choses de Dieu de manière pointue et on oublie de régler les choses que le Seigneur nous demande de régler de manière personnelle, d'honorer qui nous devons honorer, de rendre à Dieu ce qu'on lui doit, de rendre à ceux qui sont autour de nous ce qu'on leur doit. Vous savez qu'on doit, on est redevable, on a une dette immense. On a une dette immense envers Dieu. Regardez la croix, vous comprenez tout de suite. Mais la Bible dit aussi que nous avons une dette immense envers notre prochain. Nous devons l'aimer, aimer notre prochain, comme nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh, nous avons besoin de toute la grâce, l'onction du Seigneur pour pouvoir aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je finis avec cette pensée. La forteresse de l'injustice ou de choisir de penser à ce qui est juste. Que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Notre monde est rempli d'injustice. L'injustice, c'est le fruit du péché. Tant que Adam et Ève sont restés dans l'obéissance, eh ben, ils n'ont pas connu de période d'injustice. Tout allait bien. Mais dès que ça a commencé à rentrer le péché, dès qu'ils ont désobéi, que le péché est rentré dans le monde, alors ça a produit des situations injustes. Est-ce que c'était juste que Abel meure? Lui qui était agréable à Dieu, est-ce que c'était juste? Dès la Genèse, ça commence. Et puis vous lisez toute la Bible, vous voyez qu'il n'y a que des situations injustes, que des difficultés, que des combats, que des épreuves. Est-ce que c'était juste la plus grande des injustices de tous les temps? Que Jésus meure à la croix. Hier matin, au cours de Christologie, il montrait tous les témoignages dans la Bible de ces personnes qui disaient que Jésus était innocent pendant son procès. À plus de 10 ou 11 fois, je crois, il est répété des gens disent « il est innocent ». Et le résultat, c'est que cet homme, il meurt sur la croix. Est-ce que c'était pas une injustice flagrante? Le procès était totalement truqué. Mais Dieu avait prévu que ça se passe comme ça, pour que nous puissions être sauvés. Le raisonnement d'injustice qui peuvent devenir une forteresse, c'est un petit peu la forteresse de Calimero. Vous connaissez tous Calimero? Ce petit poussin noir là qui dit tout le temps « c'est pas juste, c'est pas juste ». Et on connaît des gens aujourd'hui encore qui disent « c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas juste, je rencontre telle épreuve, il y a telle chose qui ne va pas dans ma vie. Alors, pour moi ça va pas, mais celui qui est en face, on dirait que tout lui réussit. Celui qui moi je crois, j'essaie de prier, j'essaie de combattre dans la foi, et puis mes voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, tout leur réussit. C'est pas juste. » Et on reste emprisonné dans des forteresses. On peut avoir des moments, et on est tous passés par là. Moi le premier, ces moments où on dit c'est pas juste. Mais à un moment donné, on doit dire « Seigneur, je veux me confier en toi. Que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Toutes ces pensées d'injustice, toutes ces pensées de choses qui ne devraient pas être et qui sont, ça nous conduit à douter de l'amour de Dieu. Ça nous conduit, comme je le disais tout à l'heure, dans les murmures, dans la critique et dans cet état de cœur qui a fait que les Israélites ont tourné en rond. Il y a une autre chose qui est là. C'est qu'il y a la jalousie qui peut monter. De l'impatience qui peut monter. Du découragement. Quand on commence à entretenir la pensée d'injustice, alors il y a tout ça qui est le résultat. Mais le Seigneur est celui qui veut renverser les forteresses. Et la forteresse d'injustice, c'est les raisonnements qui sont dans ce sens-là. La hauteur de notre propre justice, des fois, on est tous spécialistes. Et ça, c'est pas des fois en fait, c'est tout le temps. On a tous cette capacité hyper développée. On est tous des super-héros pour discerner le mal qu'il y a chez l'autre. Et pas se rendre compte du mal qu'il y a dans notre vie à nous. Jésus l'a dit avec l'image de la paille et de la poutre. On est capable, on est pointilleux sur notre prochain. Oh là là, lui là, il y a ça qui ne va pas. Alors qu'il y a une poutre qui est là dans notre œil et qu'on ne se rend même pas compte. Et ça, c'est la propre justice. Et je me souviens de ce témoignage, je termine avec cet exemple que j'ai vécu à Toulouse. C'était un pasteur qui était de passage, qui prêchait, qui disait ce passage merveilleux de Josué. « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai pour nous encourager à être des personnes qui évangélisent dans leur ville, qui font des actions dans leur ville, etc. » Et il y a un jeune homme qui était là, qui était bouillant, qui était zélé, qui sautait partout pendant le message et tellement ça lui touchait le cœur. Puis il est venu me voir. C'était un jeune qui commençait à venir aux réunions, on le connaissait pas trop. Et il commençait à dire, ah oui, amen à cette parole là, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai. Il faut qu'on aille dans les rues, il faut qu'on fasse le tour de la ville, il faut qu'on aille dans les boîtes de nuit, il faut qu'on aille dans les bars et qu'on prêche l'évangile. Puis moi je le voyais qui était très très, en apparence très zélé, mais il y avait quelque chose qui allait pas dans sa vie. Et en parlant avec lui, par la suite, on a vu que c'était des grosses choses qui étaient là. Et lui, il voulait révolutionner le monde, révolutionner à l'extérieur. Il voulait faire justice, il voulait que la justice de Dieu soit manifeste dans l'extérieur, mais il ne voulait pas faire dans son cœur ce qui était juste. Ça marche pas comme ça, mes amis. Ce passage, il est là pour nous dire que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Si je veux amener une bénédiction dans ce monde, il faut d'abord que y ait l'œuvre du Saint-Esprit qui me conduise à faire ce qui est juste dans ma vie. Qu'est-ce qu'il est juste de faire? Comment savoir ce qu'il est juste? Eh bien là, c'est la même chose. Il suffit de regarder à la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Vous voulez que vos pensées soient remplies de justice? Vous voulez savoir ce qu'il est juste de faire? Alors lisez les Écritures, parce qu'elles vont vous convaincre. Elles vont vous instruire dans la justice. Elles vont vous corriger. Oh oui, il y a besoin de correction des fois, mais c'est la correction du Seigneur est tellement bonne. Vous savez que si des fois c'est le pasteur qui est obligé avec les anciens de venir corriger quelqu'un, c'est parce que la personne n'a pas accepté la correction du Seigneur dans sa chambre. Je dis pas que je vais le faire aujourd'hui, hein, attention, vous me regardez avec inquiétude, mais les situations où c'est arrivé, des moments donnés où on doit exercer la discipline, c'est quelque chose de profondément biblique de pouvoir reprendre notre frère ou notre sœur. Mais toutes les fois que le pasteur est obligé de le faire, c'est parce qu'on a loupé l'étape où personnellement le Seigneur voulait nous reprendre et on n'a pas écouté. Mais que nous soyons de ceux qui choisissent que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. On va fermer les yeux. Vous avez vu combien ces versets sont d'une richesse incroyable. Mais ce matin, ça serait tellement dommage de passer à côté, si quelqu'un se trouvait dans une forteresse quelconque, de passer à côté de cette arme puissante qui est la suivante, amener ses pensées captives à l'obéissance. Où en est votre désir d'obéir au Seigneur? Est-ce que c'est juste une idée que vous approuvez, mais qui n'a aucun impact dans votre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait brûler votre cœur? Seigneur, je veux t'obéir. Oui, je veux chercher premièrement le royaume de Dieu et ta justice. Que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, Seigneur. Et s'il y avait quelques pensées qui étaient contraires à ces choses, ô Éternel, j'ai besoin de ton secours. Qui ce matin peut dire cette chose? Seigneur, j'ai besoin que tu viennes renverser dans ma vie la forteresse. Tu viennes m'aider, Seigneur, à prendre cette arme et à l'utiliser de la bonne manière. Pour que, Seigneur, j'ai la liberté des enfants de Dieu qui soient une réalité dans ma vie. Qui ce matin connaît un temps où il tourne en rond, où il a l'impression qu'il n'avance pas? Le Seigneur nous donne cette arme puissante.